chaussure rouge en radio. La chaussure rouge en radio, toujours en émission spéciale pour ce Rise Up for Change 2020. Ça se passe à Berne, plus précisément sur la place fédérale. On est parti de la chute ce matin, on s'est installé à la place fédérale et on y est toujours. On va retrouver Pauline qui est en direct de cette place fédérale avec une belle petite brochette d'invités qu'on va découvrir tout à l'heure. Et puis du côté du studio, eh bien, il y a toujours les éternels, ceux qui sont vissés à leur chaise dans le confort du studio. Lucie d'un côté et Patrick pour la réalisation. Bienvenue à bord. Bonsoir Lucien.
Bonsoir Patrick, bonsoir à toutes et à tous.
Alors hier, on a fait connaissance d'activistes d'Action Rébellion. Elles étaient deux, hein, c'était Jeanne et Réjeanne. Vous avez pu d'ailleurs écouter entre 19h et 20h la rediffusion de cette émission de hier soir, que vous retrouverez peut-être en partie d'ailleurs sur le site prochainement. Ce soir, on va aborder aussi un sujet un peu particulier. On va mélanger chrétienté et Action Rébellion, puisqu'il existe un groupe de chrétiens, on peut le dire, d'Action Rébellion. Et c'est eux que l'on va rencontrer ce soir. Ils sont trois. Il y aura tout d'abord Gilles, suivi d'Elisa, puis Diana, avec qui nous allons pouvoir dialoguer et faire connaissance. Là, tout de suite, je vous propose de retrouver Pauline, qui est à la place fédérale. Bonsoir, Pauline.
Bonsoir.
Alors toujours à la place fédérale, parce qu'on était un petit peu inquiet quand même aux alentours de 17h, on a vu passer des tweets et différentes infos, on a parlé de canon à eau, de balles en caoutchouc, on s'est dit ça y est, ça part en cacahuète, puis non, pas du tout en fait.
Oui, alors avant toute chose, je me permets de clarifier quelque chose, c'est pas Action Rébellion,
pardon.
C'est Extinction Rébellion.
Extinction, oui, pardon, excuse-moi, je suis parti, oui, non, en plus,
détail,
non, mais c'est important,
les gens
absolument.
Souvent, mais finalement. Extinction Rébellion font des actions, donc ça va ensemble. Alors oui, en fait, à un moment donné, nous avons eu un ultimatum pour partir à midi, c'est ce que la police et la ville nous a demandé. Et au fait, on a décidé de rester. Donc, ce qu'on a discuté un peu hier soir, l'intérêt de la désobéissance civile. Donc, nous sommes restés. Et puis, dans les alentours de 16h, on a reçu un nouvel ultimatum qui disait si dans les 3h, vous n'êtes pas partis, enfin, vous avez 3h pour partir. Et finalement, nous ne sommes pas partis. Par contre, durant ces 3h, il y a une manifestation illégale de personnes immigrées qui s'est formée en centre-ville, je crois. Enfin, bon, on est en centre-ville, mais un peu à l'extérieur de la place fédérale. Ouais. Et au fait, c'est là-bas qu'il y a eu beaucoup plus de violence de la part des policiers, en tout cas, puisqu'il y a eu des canons à eau et des balles en caoutchouc tirées. Mais ça, c'est pas au sein du camp que ça s'est fait. Par contre, il y avait des gens de Rise Up for Change qui étaient sur place pour soutenir, évidemment, ces personnes.
Donc ça veut dire que vous n'avez pas vu finalement de policiers ou de dispositifs policiers sur cette place fédérale.
À la place fédérale, on n'a vu vraiment aucun policier. Ceux qu'on a vus étaient extrêmement bienveillants à mon goût. Il y avait des sourires. Voilà, ce n'était pas un problème, non.
Par contre, vous avez même eu la visite d'un parlementaire.
Oui, et de plusieurs parlementaires, oui, effectivement.
Et raconte-nous, parce qu'on en a discuté tout à l'heure hors antenne, donc il a voulu vous faire un petit peu la morale, hein, ce parlementaire-là.
Ah oui. Oui, alors en fait, on a eu la visite d'un parlementaire plutôt de droite, a priori, qui est venu, qui est rentré dans la tente et qui a commencé en nous disant « Alors bon, le climat, c'est bien, mais… » Et puis il a commencé à faire son speech, comme quoi… c'était pas très, très... Voilà, bon, il avait pas trop envie qu'on soit là. Et il nous l'a fait comprendre. Et au fait, on a commencé à taper dans nos mains. Et on a tellement tapé longtemps dans nos mains que ça a fini par l'exaspérer jusqu'à ce qu'il se décide de partir. Quoi. Après, il y a eu une réponse assez vive d'une PS. Et là, vraiment, alors il a pris ses clics et ses claques. On l'a plus revu. Donc voilà.
Alors avant d'aller plus loin dans la soirée, sur le thème que tu nous as proposé ce soir, Pauline, je propose d'aller prendre un peu la température de cette place fédérale avec les sons que tu nous as fait parvenir. On a, comme hier, compilé tout ça en deux parties. La première partie, je l'ai baptisée le marché du matin, et c'était vraiment du matin.
Il est 5h03 du matin. Ça fait déjà une heure qu'on est réveillés. On n'avait pas trop le choix parce que ce matin il y avait le marché. Et vu qu'on a dormi sur la place avec nos tentes, on devait plier toutes nos tentes où on a dormi. Et les personnes du marché arrivent à 5h le matin. Donc on avait une heure pour tout plier. Donc on l'a fait, on a réussi. Là il y a les gens du marché qui commencent à arriver. Chacune trouve leur place. Alors nous on a gardé nos infrastructures principales et on a gardé la cuisine collective qui est aussi comme la tente centrale, une espèce de grand tunnel en bois. Et là au fait on va essayer de faire pour que la collaboration se passe au mieux avec les gens du marché. D'ailleurs on est là pour les aider, ceux qui veulent de l'aide ils peuvent avoir de l'aide, de notre aide. Et en fait, moi, j'aime beaucoup parce que ça donne un peu un espèce de circuit, un parcours où il y a nos tentes avec nos guirlandes et nos drapeaux et tout. Et il y a les stands des maraîchers, des maraîchères. Et ça donne un truc très joli. Au fait, ça fait totalement sens d'allier climat et marché. Ça va, Franklin ?
Ça va, je suis surtout en train de réfléchir à ma journée de travail qui m'attend.
Ouais. Tu peux me dire où est-ce que t'as dormi ? C'est quand même assez insolite.
Il s'avère que du côté de la BNS, il y a des travaux, il y a une grue qui est installée un peu en hauteur comme ça, et du coup ça fait un espèce de tunnel. Alors de base il y avait un blocage qui s'était très rapidement installé ici parce que c'était un accès fort pour la police. Et il y a surtout 2-3 hamacs qui se sont tirés entre les échafaudages en fait, qui faisaient parfaitement la bonne longueur.
Alors moi je suis arrivée aujourd'hui parce que je pouvais pas venir avant, malheureusement. Je fais partie de la grève du climat. Et donc voilà, c'est un projet qui est porté en partie par la grève du climat, ici le Rise Up for Change. Et puis j'avais envie de venir voir qu'est-ce qui s'y faisait, de quoi ça avait l'air. Et puis je suis assez impressionnée par le camp qui a été monté. En fait, je trouve ça assez génial parce que ça montre aussi le savoir-faire qui s'est développé là en... on est à combien d'années de la grève du climat ? Pas encore
ouais, deux ans.
Un an et demi. Et depuis un an et demi, il y a tout un savoir qui s'est créé. Et là, de voir que ce camp a pu être monté, que là, il est menacé, mais que ça fait quand même depuis dimanche dans la nuit, lundi matin, que c'est là. Et puis qu'il y a tout un tas de discussions très intéressantes, d'échanges, et puis que là, ça cohabite très bien avec le marché. Il y a un panneau qui est pas mal, qui je pense a été fait par des activistes, où c'est écrit « Marché local, solution globale ». Ben voilà, parce qu'il y a les stands habituels qui viennent au marché, je pense, tous les mercredis, qui se sont fait une place au milieu, enfin autour des stands et du campement et des tentes montées par les infrastructures.
En fait, le camp a mis en place. Mm-hmm. Donc t'as l'impression que la cohabitation se fait bien là, ou...
Moi j'ai l'impression que ça se fait bien. Après j'ai entendu avant un monsieur qui cherchait son stand de viande et qui demandait où était son stand de viande parce qu'il n'était pas là où il était d'habitude, et puis qui a dit ah mais c'est illégal ce que vous faites là, et puis donc du coup peut-être que parmi les clients clients, il y en a qui sont perturbés, je sais pas, peut-être ouais. Parce que parmi, il faudrait demander aux maraîchers et maraîchères aussi si en fait ils trouvent ça chouette ou non. Moi je m'appelle Sophie et je fais partie de la grève du climat.
Donc ça, c'était ce matin. Pauline, vous avez donc effectivement donné un coup de main à nos amis maraîchers pour s'installer.
Voilà, ouais, on s'est levé très tôt pour effectivement dégager la place et puis les accueillir. Voilà.
Et puis là, je vous propose de passer tout de suite, avant de retrouver les invités qui sont donc Gilles, Elisa et Diana de ce groupe chrétien de Extinction Rébellion, qui vont passer la suite de la soirée avec nous. L'autre compile des ambiances de ce jour que Pauline nous a envoyé. Celle-là, on l'a baptisée tout simplement Ambiance. Le début est un petit peu plus tendu.
Là, je pars faire un tour parce qu'au fait, la tension est montée de beaucoup de crans. On est complètement dans un autre registre que ce matin. Il y a les bloqueurs et les bloqueuses qui se préparent à se mettre en place. Le marché est en train de se vider parce que c'est l'heure à laquelle il se vide normalement, donc là, il n'y a rien de louche. Au fait, là, on va se faire déloger parce qu'on a demandé à pouvoir parler avec la commune de Berne et la commune de Berne a refusé de nous rejoindre. Donc on va être jarté de la place fédérale. C'était la menace qui planait depuis ce matin, mais en fait, on réfléchissait encore à une stratégie, donc on ne l'a pas vraiment dévoilée. Jusqu'à 13h, on ne savait pas trop quelle forme ça allait prendre. Et là, maintenant, on sait qu'il y a tout plein de fourgons de police qui sont de l'autre côté du bâtiment de la BCB. Ah bah voilà, des rebelles rouges. Alors les rebelles rouges, c'est ces êtres de Extinction Rebellion qui s'habillent tout de rouge et qui font un peu une démonstration spectaculaire, voire théâtrale, en bord de route. Alors c'est muet, ils font juste des gestes et ils sont habillés tout en rouge, c'est assez incroyable.
En fait, c'est moi qui suis venue avec 5 costumes de Fribourg, parce qu'à Fribourg, on a des raids rebelles, on a fabriqué des costumes nous-mêmes avec beaucoup de récup, toute la récup.
C'est vous qui avez fait tout ça ?
On a tout fait les costumes avec China et toute une équipe de personnes qui étaient d'accord de coacher. Donc. Et puis on a maintenant 12 costumes qui sont normalement attitrés à des gens. Et comme la personne pouvait venir, eh bien, j'ai pris des costumes avec moi pour que 5 personnes que je trouverais ici soient d'accord de faire avec moi les raids rebelles. Donc c'était ça l'idée.
Et alors ça fait quelle sensation d'être raid rebelle ?
Ah, c'est puissant, hein. On est vite dans le rôle, on est muet, on représente quelque chose de super important. Qu'est-ce que ça vous fait comme sensation à vous ?
C'est ultra intense. C'est ultra intense. Il y a.
C'est comme une sentence. Je sais pas. C'est comme un appel aux gens. Vous diriez quoi ?
Ah, moi, ça m'a donné envie de pleurer, quoi.
Ouais,
c'est émouvant, hein, ouais.
Il y a quelque chose de très divin. Enfin, j'ai l'impression que c'est très sacré, sacré.
Pour moi, en tout cas, je l'ai ressenti comme si on représentait en fait tous les esprits en fait du vivant qui ont péri à cause de nos bêtises humaines, quoi.
C'est moi que ça m'a fait plus.
C'est beau, c'est une incarnation comme ça, on représente, puis c'est... Il y a du vent, il y a l'air, puis on dit rien, donc on est pleinement engagé ensemble, il n'y a pas de chef, on se suit, dès qu'on a besoin de se dire quelque chose, on se regroupe, là on peut se parler, mais sinon vraiment c'est muet, puis on tire des regards auprès des gens, on les interpelle, je pense que c'est... D'ailleurs on voit comme les gens nous laissent passer...
Ça va ? Merci beaucoup.
Oui, oui, très bien. Oui, très bien.
C'était cet après-midi sur la place fédérale, des sons qui nous sont parvenus par l'intermédiaire de Pauline. Pauline qui s'y trouve d'ailleurs sur cette place fédérale. On sent une ambiance plutôt agréable, plutôt détendue et même bon enfant, hein, on peut le dire.
Et oui, et d'ailleurs ça nous permet de faire la transition puisque les personnes qu'on a entendues en dernier faire la chanson avec la guitare, c'est ceux qui sont assis maintenant à côté de moi. Et au fait, c'est le groupe de chrétiens d'Extinction Rebellion, donc pour le climat. et je savais pas du tout qu'il y avait un tel groupe. Et j'étais très surprise, je me suis tout de suite, enfin, ça m'a tellement interpellée que je me suis tout de suite demandé s'il pouvait venir me parler peut-être du lien qu'il pouvait faire entre spiritualité et climat, même au-delà de la chrétienté, bien entendu. Mais, donc voilà, est-ce que je peux me permettre une transition avec Gilles, Patrick ?
Mais l'antenne est à toi, Pauline.
Ah ben, magnifique, alors. Alors Gilles, tu peux me parler un peu de ce mouvement ?
Oui, alors c'est un mouvement qui vient d'Angleterre principalement, qui s'appelle Chrétiens pour le climat. Je dis mouvement parce que nous, disons, on est plus un mouvement qu'une organisation très structurée. Disons, on est jeune, on vient de commencer, donc on essaie de nouer des contacts avec des chrétiens en Suisse romande, mais aussi en Suisse allemande. Et aujourd'hui, c'était d'ailleurs la première occasion où on a pu se rencontrer avec d'autres chrétiens suisses allemands pour participer à cette action avec l'étiquette voilà, Chrétiens pour le climat, mais voilà, sans avoir une entité de groupe très définie, mais des convictions assez fortes.
Et alors, toi, comment t'as pu faire le lien entre écologie et ben, chrétienté, en l'occurrence, ou spiritualité, je devrais dire comment ?
Avec christianisme, je dirais, avec la foi chrétienne, disons. Bon, c'est toute une histoire. Moi, j'ai grandi dans un milieu voilà, croyant, protestant. J'ai baigné dans ce milieu-là. On m'a inculqué un certain nombre de croyances. Et puis, arrive à ce moment où, adolescent, ben, soit on jette tout, soit on se le réapproprie, quoi. Moi, je me suis réapproprié notamment parce que bon, ben, voilà, j'ai rencontré des gens assez stimulants dans les groupes de jeunes, notamment, qui m'ont apporté toute une réflexion sur mes besoins, mes émotions, sur mon rapport au monde. Et plus tard, j'ai fait une thèse que je suis en train de terminer sur les chrétiens contestataires dans les années 60-70. Et pour moi, là, ça a été une immense découverte d'un mouvement assez puissant en Europe, mais aussi en Amérique latine, de chrétiens qui, depuis la guerre du Vietnam, la résistance de la guerre au Vietnam, la résistance de la guerre en Algérie, et plutôt dans la résistance, en fait, face au nazisme, de chrétiens qui, en fait, ont pris position, toujours minoritaires, mais ont pris des positions très radicales et ont développé toute une théologie et une réflexion à partir de leur foi sur la résistance au pouvoir, la résistance à l'autoritarisme, sur la question aussi du recours à des actions non violentes. Je pense notamment à Martin Luther King, je pense à Bonhoeffer en Allemagne, je pense à des gens comme Karl Barth qui disait toujours qu'il lisait la Bible avec le journal dans l'autre main. Enfin voilà, j'ai découvert là toute une théologie de la révolution, une théologie de la libération, une théologie en fait qui remet en question une religion très instituée, très moralisante, une religion de la piété, pour au profit, disons, d'une religion de mouvement, une religion qui se place du côté en fait des pauvres, qui se place du côté de la justice sociale. Et c'est ça qui m'a nourri ces dernières années. Et quand on parle de justice sociale, et je crois que c'est un des apports de cette théologie-là, on parle aussi de lutte contre la domination masculine, mais aussi de lutte contre la destruction du climat. Pourquoi ? Parce que la destruction du climat, le lien, il est là. En fait, elle tue des gens, elle assassine des gens. Et en tant que chrétien, ces gens-là, je les considère comme mes frères et sœurs, en fait. Donc, c'est une douleur insupportable, vraiment insupportable. Voilà.
Et qu'est-ce que Gilles fait au quotidien, au-delà de l'aspect purement foi et de ce qui t'anime finalement au quotidien, par rapport à tout ce qui est environnement et aux choses qui t'entourent? Je pense par exemple simplement au règne animal ou à la biodiversité.
Ouais, alors il y a deux choses. Pour nous, chrétiens engagés, il y a un immense défi, et on est bien seul dans ce défi, mais on compte s'y mettre vraiment. C'est qu'en fait, les églises, je crois, se rendent pas compte, en fait, de la crise climatique et de l'enjeu qu'il y a. Donc, au quotidien, ce qu'on fait, on a un groupe à Lausanne qui s'appelle le groupe Humus. On organise des conférences, on rentre en contact avec des responsables d'église, on organise des réunions, des assemblées, pour venir interpeller et entre guillemets venir chatouiller ces gens-là et leur dire vous pouvez pas continuer à vous dire chrétien et avoir un désintérêt pour la crise climatique. Ça me prend pas mal de temps. L'autre élément, c'est aussi qu'on cherche évidemment à vivre notre foi avec cohérence et authenticité. Voilà, moi j'ai 34 ans maintenant, je vis dans une colocation avec 7 personnes. On adapte le loyer en fonction du revenu. Je suis végétarien, j'essaie d'adapter voilà mon mode de vie, j'essaie de revoir mon rapport à l'argent. Donc c'est aussi tout ce travail personnel qui est fait, un travail aussi énorme de réflexion sur ma propre foi, parce que j'ai dû le tailler un peu seul, ce travail-là de théologie, pour soit abandonner ma foi ou soit en faire une foi pertinente, quoi. Et c'est un énorme enjeu existentiel qui prend du temps et de l'énergie, quoi.
Est-ce que tu as le sentiment que faire changer les mentalités, c'est plus difficile dans un environnement religieux que dans un environnement politique ?
Oui et non. Je pense qu'il y a les mêmes résistances, les résistances de peur, les résistances liées aussi à des enjeux générationnels, des gens qui ont grandi dans un tout autre monde que le nôtre, qui ont grandi avec de tout autres préoccupations que le nôtre, qui ont vu aussi plein de préoccupations défiler sur leurs yeux. Donc oui, il y a de la résistance. Et en même temps, ce qui est intéressant dans le milieu chrétien, c'est que c'est des gens qui, au fond, quand on les embête sur la question de l'authenticité de leur engagement de foi, en fait, ils peuvent pas s'échapper. Parce que là, on touche au cœur de ce qui font qu'ils vont tous les dimanches matin au culte, à l'église, etc. Et ils doivent répondre à ça. Ils peuvent, ou alors ils sont placés dans une situation de dissonance cognitive énorme. Ce qu'un politicien, lui, il peut faire, il peut dire qu'il a d'autres intérêts à défendre, qu'il représente une certaine population. Nous, on défend un message. Et ce message, il est commun. Et là, je pense qu'on peut les acculer et puis essayer de les faire bouger. Mais pour ça, il faut qu'on soit entendu. Pour ça, il faut qu'il y ait l'espace qui se crée dans les églises. Et j'espère que ça va venir.
Je suis assez impressionné par le discours qu'on entend. Là, on se regarde de chaque côté de la vitre du studio avec Lucien. On te sent, non pas remonté, mais très, très engagé, Gilles.
Déterminé,
voilà, c'est le mot que je cherchais.
Déterminé, mais vous avez raison que je suis un peu remonté aussi. Je suis un peu en colère. Je pense que la colère est mobilisatrice. Je pense qu'elle est mobilisatrice, mais aussi elle est pleine d'espoir. Hein. C'est-à-dire que... Voilà, moi, on m'a souvent répété, les chrétiens se reconnaissent beaucoup dans des textes, par exemple, « Soyez le sel de la terre ». Moi, j'ai beaucoup entendu ça, j'ai jamais compris ce que ça voulait dire. Ben, maintenant, avec le climat, je comprends ce que ça veut dire. Ça veut dire que quand on se mobilise auprès de migrants, auprès de réfugiés, comme ça a été le cas aujourd'hui, en fait, on donne espoir à ces gens. On leur donne un espoir de justice sociale, on leur donne un espoir d'être soutenus. J'ai envie que ce message-là, dans les églises, soit entendu et que les gens se bougent, se réveillent, se mettent en mouvement. Et oui, je suis fatigué et peut-être un petit peu impatient que ça se passe, effectivement.
Merci Gilles, magnifique ce travail et ça fait vraiment beaucoup de bien d'entendre cela et merci pour tout ce que tu fais, c'est très très précieux.
Ouais, ben je voulais aussi remercier tout ce mouvement énorme de jeunes là qui nous accueillent. Ils sont pas du tout sectaires, pas du tout fermés. Moi au début j'ai eu beaucoup d'appréhension en me disant voilà les chrétiens qu'est-ce qu'ils viennent foutre là avec leur Bible, ils nous emmerdent. Pas du tout. Il y a un vrai dialogue qui se crée, il y a une vraie curiosité, il y a un enrichissement mutuel. J'apprends d'eux, ils m'apprennent, je peux leur apprendre des choses. Enfin vraiment on est dans le même mouvement. J'ai une très forte identification à ce mouvement, c'est vraiment très chouette. Donc merci quoi.
C'est une première participation à une manifestation comme celle-ci, Gilles, où tu as déjà l'occasion de faire des occupations de place, qu'elles soient fédérales ou autres, à d'autres endroits.
Non, j'ai déjà eu plusieurs occasions. Bon, j'étais à la grande manifestation pour le climat l'été passé, mais aussi avec XR à Lausanne, on a occupé plusieurs places. On a été présents, on a été assez discrets parce qu'on est assez peu nombreux, c'est vrai. Mais on a été présents, on était là et ça m'a beaucoup inspiré.
Merci pour cette magnifique rencontre. Moi, je vous propose de juste respirer un petit coup en musique avant de poursuivre cette soirée. Il y a d'autres représentants de ce même groupe auquel appartient Gilles. On va faire la connaissance tout à l'heure d'Elisa, puis de Diana. Là, la respiration musicale que je vous propose, le titre, je le trouvais sympa, en adéquation avec cette soirée. C'est Seeds of Freedom de Manu Chao.
Time has come, seeds of freedom, life will overcome, seeds of freedom, all we need is sown, seeds of freedom, life will overcome, small seed big tree, gardens of hope, everywhere just to share, gardens of hope. Freedom, time has come, seeds of freedom, life will overcome, small seed, big tree, gardens of hope, wind blows it go, from hand to hand, seeds of freedom, seeds of freedom. By little, hold my cheek. of society. Seeds of freedom. Gardens of hope growing slowly. Seeds of freedom. Stand up together, be ready. Be ready. Be ready. Seeds of freedom. Last chance to save humanity.
La chaussure rouge en radio dans le Rise Up for Change en direct de la place fédérale de Berne où Pauline se trouve. Ce soir, on parle avec le groupe chrétien d'Extinction Rébellion. Nous avons fait la connaissance de Gilles tout à l'heure. Et puis là, tu as d'autres invités autour de toi, Pauline.
Voilà, là, on va faire connaissance avec Elisa, à qui je vais poser cette première question. Qu'est-ce que tu fais, toi, aujourd'hui pour le climat ?
Alors, bonjour, merci. C'est gentil de poser la question. Ben, je pense comme tout le monde, j'en fais pas assez, mais je fais ce que je peux. Et une chose que j'ai à cœur, c'est d'un côté de participer aux manifestations qui existent déjà, donc aux manifestations globales de la grève pour le climat, d'Extinction Rébellion, me joindre à l'effort collectif. Et de l'autre, j'essaye en fait de rejoindre mon milieu à moi, les gens que je fréquente au quotidien, c'est-à-dire beaucoup des chrétiens en fait, parce que j'ai grandi dans l'église et c'est tout un réseau très fraternel, très sympathique, et c'est une occasion de rejoindre des gens qui en fait n'entendent très peu parler du climat parfois, parce qu'ils sont parfois dans leur bulle aussi. Et on a avec Gilles, que vous avez entendu tout à l'heure, créé un collectif Humus sur Lausanne, et on essaye en fait de rassembler les chrétiens, de les mobiliser, de leur montrer qu'eux aussi peuvent faire une différence. Et c'est une aventure palpitante que je me réjouis d'entreprendre, mais c'est clair que là, étant sur la place fédérale, je suis très intimidée par ce que d'autres font et ça m'inspire énormément. Voilà.
Elisa, comment tu expliques que des gens qui font partie de la même communauté que toi, finalement, comme tu le disais, sont a priori peut-être parfois déconnectés de cette réalité ou sont peut-être très loin de réaliser qu'on a un souci climatique ?
Il y aurait plein d'explications différentes, mais je pense que l'une d'entre elles, c'est simplement un peu les bulles sociales. Donc moi, j'ai été sensibilisée à l'écologie beaucoup à l'université. Et pour beaucoup, c'est pas le cas, en fait. Quand on pense aux personnes d'une cinquantaine d'années, si elles prêtent pas tellement attention aux nouvelles, elles peuvent se déconnecter ou tout simplement, en fait, ne pas vraiment considérer que c'est important. Ou je pense aussi, il y a simplement le train-train quotidien. On est pris dans nos devoirs quotidiens du travail, de la famille, et on en oublie autre chose. C'est comme s'il y avait un trop-plein et il n'y a pas la place pour ça. Et je pense que si on est beaucoup de jeunes à se mobiliser, c'est qu'on a cette disponibilité d'esprit aussi.
Pauline, tu avais une question, ouais, oui, effectivement, pardon.
Il y avait une question qui suivait, mais c'est très bien d'avoir posé cette question. Moi, je me posais la question de comment, du coup, tu en es arrivé là.
Je dirais que en fait le terreau dans lequel la graine pour le climat s'est plantée dans ma vie, c'est vraiment le terreau de la spiritualité chrétienne. Donc moi, depuis que je suis petite, quand j'avais 12 ans, je me suis intéressée donc à la Bible. À l'époque, je croyais pas vraiment en Dieu, mais j'étais interpellée par ce message de Jésus qui s'adresse à tous, hein, tout être humain, de aime ton prochain comme toi-même. Souhaite du bien à ceux qui te souhaitent du mal, prie pour ceux qui te menacent, te maltraitent. Et je me suis dit, waouh, en fait, ça, c'est de la dynamite. Si tout être humain souhaitait du bien aux autres, le monde serait tellement un meilleur endroit pour vivre. Et donc, sur ces paroles-là, j'ai décidé de devenir chrétienne. Et quelque part, ça a ouvert mon horizon. J'ai considéré que tous les gens autour de moi, en fait, étaient mes frères et sœurs et que j'existais pour les servir. Donc, j'ai vraiment grandi avec cette dynamique-là. Et puis ça, c'était, si vous voulez, le terreau dans lequel, tout d'un coup, la graine de l'écologie est venue se planter et a germé très, très vite. C'est-à-dire que il y a 9 mois en arrière, j'ai été beaucoup plus en contact avec le message écologique. Et je me suis rendu compte qu'en fait, on parlait plus de quelques espèces qui disparaissent, mais en fait, on parle en pourcentage de population d'animaux qui disparaissent. Et qu'en fait, la situation s'est gravement aggravée. Et que, en fait, tout s'accélère. Et que la situation est beaucoup plus grave que ce qui nous semblait. Je me vois encore dans les rues de Lausanne entendre une manifestation qui faisait trembler toute la ville. Et je me suis dit, purée, en fait, on est la génération climat. C'est nous, quoi. C'est plus dans 10 ans, c'est pas dans 20 ans, c'est maintenant. Et si en fait, j'aime vraiment mon prochain, je dois m'investir. Et il y a eu ce déclic, en fait. Aimer son prochain, c'est se préoccuper des questions climatiques. Et ça a été très très rapide pour moi, ce changement. Et en fait, j'ai passé 6 mois un peu à tout remettre en question, à pas tellement dormir la nuit, et à me poser cette question de manière répétitive, mais qu'est-ce que je peux faire pour aimer les gens autour de moi et pour faire une différence pour le climat ? Et je pense que ma foi me porte beaucoup aussi là-dedans, parce que je crois en un Dieu qui a tout créé, en fait. Et je vois sa beauté dans la nature, et je pense qu'on peut tous, quelle que soit notre spiritualité, voir la beauté de la nature et être inspiré, être émerveillé. Et moi, je crois en fait que ce Dieu, il a fait une alliance sacrée. Et c'est important que ce soit une alliance sacrée parce que, en fait, ça amène une autorité qui est différente et qui peut être aussi au-dessus de l'autorité de la politique ou de l'argent. C'est-à-dire que pour moi, l'alliance sacrée que Dieu a fait entre les humains, entre la nature et avec lui, en fait, elle est sacrée. C'est-à-dire que si on détruit la nature, on attaque l'alliance sacrée que Dieu a fait avec nous. Et donc, en fait, j'ai une motivation, une autorité au-dessus des autorités qu'on entend politiques. Alors, bien sûr, ça ne doit pas nous pousser à être violents, surtout pas. Ça ne doit pas nous pousser à être contestateurs inutilement. Mais ça nous donne, en fait, la force de, quelque part, dépasser les enjeux financiers qui sont là aujourd'hui. Et moi, je suis redevable envers mon Dieu, en fait, parce que je l'aime, parce qu'il m'a créé, et je suis plus redevable envers lui qu'envers le système financier, envers le système capitaliste. Et s'il m'a donné cette mission de prendre soin de la Terre, eh ben, je veux le faire jusqu'au bout, parce que je l'aime, parce que j'aime mon prochain, parce que j'aime la nature. Et ça, c'est vraiment le message pour moi de la Bible, c'est qu'on est réconciliés avec la nature, avec Dieu, avec notre prochain. Et je pense que tout le monde peut recevoir ce message spirituel, quelle que soit sa croyance aujourd'hui. Voilà, je vous ai un peu balancé le truc, mais voilà, qu'est-ce qui m'enthousiasme et qu'est-ce qui fait qu'on avait envie de manifester aujourd'hui.
Non, mais on est là pour ça, balancer seulement, on récolte très volontiers. Moi, ça m'a juste inspiré une petite réflexion et j'aimerais entendre Elisa sur ce sujet. Dans les différentes publications qui existent sur plein de supports marketing qu'on a autour de nous, entre autres ce côté écologique qui est souvent récupéré par certaines grandes compagnies, on utilise souvent le terme « sauvons la planète », mais en fait, dans la réalité, c'est pas la planète qu'il faut qu'on sauve en ce moment, c'est nous, c'est l'espèce humaine.
Oui, absolument. Et ta question, c'est donc ?
Et donc, j'ai fait une question ouverte et donc je l'ai repris en plein dans la tronche parce que...
Pardon.
J'attendais un petit développement derrière, mais oui, si on est déjà d'accord avec ça, c'est bien.
Ben, en fait, oui, l'espèce humaine, tout à fait. C'est-à-dire que la planète, elle va survivre si nous, on disparaît. Mais l'inverse n'est pas vrai. Si la planète disparaît, nous, on va pas survivre.
On est bien d'accord.
Donc, ça, on est bien d'accord. Et c'est vrai que souvent, on oublie ça. Et c'est clair que moi, ce qui me porte, c'est cet amour de l'être humain, en fait. C'est-à-dire que, oui, je suis touchée par les espèces qui disparaissent, mais je suis aussi touchée par les millions de réfugiés qui nous attendent si on continue comme on le fait aujourd'hui. Après, ouais, sauver la planète, je trouve ça un peu ambivalent parce que oui, on doit faire notre possible pour y contribuer, mais je pense que beaucoup de gens en fait se démobilisent parce qu'ils se disent de toute façon, je peux rien faire, je peux pas sauver la planète. Et pour moi, il y a une première étape avant ça, c'est de juste vouloir faire ce qui est bon et ce qui est juste à nos yeux. Et sans se poser la question en fait, est-ce que mes efforts vont avoir un impact ? Parce que concrètement, c'est une goutte d'eau dans l'océan. Et en fait, on devrait retrouver cette éthique de je fais juste ça parce que c'est juste, en fait. Et ma conscience me dit de le faire. Donc, j'arrête de faire certains voyages, j'arrête d'acheter certaines choses, pas parce que je vais changer le monde, mais parce que c'est ce que ma conscience me dit. Et on doit, en fait, redécouvrir ça, à mon avis. Sans perdre de vue la dimension plus globale de la planète, bien évidemment.
Ouais, donc c'est finalement une voie peut-être intéressante à suivre, même pour ceux qui n'ont pas forcément de lien avec quelque religion que ce soit. Mais dans les changements d'attitude au quotidien, on pourrait imaginer qu'on ne le fait pas effectivement pour la planète, pour les animaux, pour l'environnement, mais on le fait déjà pour soi-même.
Oui, absolument, ouais. Je pense par honnêteté. Je pense que personne ne peut bien vivre avec cette dissonance cognitive d'un côté d'aimer la Terre et de l'autre de la détruire. En fait, c'est insupportable rien que pour nous-mêmes, en fait. Et je pense que ça se voit bien à la manière dont les gens réagissent quand on distribue des flyers dans la rue. Quelque part, on est le messager de la mauvaise nouvelle parce qu'on vient leur rappeler qu'ils ne sont pas cohérents. Et moi, je pense que toute personne vivrait mieux si elle embrassait cette cohérence, quitte à prendre des décisions radicales, parfois de quitter un job, parfois de renoncer à certains voyages, et en fait de se sentir bien avec soi-même. Parce qu'aujourd'hui, la notion écologique, elle est quand même, je pense, relativement bien connue. C'est juste qu'on ne passe pas à l'action et on ne cherche pas cette cohérence, en fait.
Alors, est-ce que, comme Gilles nous l'a expliqué tout à l'heure, toi aussi, tu as fait des choix. En l'occurrence, lui, il fait de la colocation, il a décidé d'être végétarien. Est-ce que tu as entrepris ce genre de démarche aussi de ton côté ?
Alors, j'ai refusé de faire mon permis de conduire parce que je sais qu'en tant qu'être humain, je suis faible et que si j'ai un permis et une voiture, je vais forcément l'utiliser.
Donc, tu as un permis de trottinette ?
J'ai un permis de vélo et j'ai un permis de chaussures, je marche.
Ah, ouais. C'est bien, rouge la chaussure, j'espère.
Oui, tout à fait, comme, comme le nom de votre émission. Donc ça, c'est une première chose. Donc voilà, refuser de banaliser la voiture, parce qu'en fait, pour moi, c'est un acte... En fait, prendre la voiture tous les jours pour aller au travail, c'est un enjeu terrible, mais c'est complètement banalisé. Donc je refuse cette banalisation en refusant de faire mon permis. Sinon, en fait, dans notre colocation, ce qui est assez génial, c'est qu'on est 6 et puis on se transmet nos idées, en fait. C'est-à-dire que c'est assez contagieux. Il y en a un qui trouve une idée de où acheter ses légumes de manière locale, les autres font de même. On a trouvé une solution pour acheter nos céréales qui sont produites aussi dans le canton de Vaud. Donc nos lentilles, nos pois chiches, nos pâtes sont produites dans le canton de Vaud, ce qui est assez la fête quand même. Et puis on s'encourage entre nous de se déplacer à vélo, parce qu'il y a une norme sociale qui dit aussi genre la voiture c'est la classe, t'es un adulte quand tu te déplaces en voiture. Et nous dans notre colloque c'est différent, voilà, t'es un adulte si tu te déplaces à vélo et que en fait voilà, c'est ça la classe c'est le vélo, c'est l'écologie. Et je pense que c'est contagieux, puis on a besoin d'avoir ces groupes où on s'encourage parmi.
Bon, je pensais que Lucien avait une question mais je me suis fourvoyé. De ton côté, Pauline, peut-être encore un échange à faire avec Elisa ?
Pour moi, c'est bon. Je crois que tout est dit avec une clarté fantastique.
Même déconcertante à un certain moment. Ouais. Parce que un peu comme chez Gilles, alors on sent un tout petit peu moins de colère hein, chez Elisa, mais on sent une très forte détermination également.
Aussi, ouais. Et c'est magnifique. Moi, je trouve ça très inspirant.
Je pense que la détermination, c'est l'amour qui me porte, quoi. J'aime mon Dieu, je vous aime vous, je trouve que vous êtes super, et puis j'aime la nature, et je pense qu'il faut qu'on continue à se battre, quoi. Il y a de l'espérance. Aussi, c'est une dernière chose que j'aimerais dire, c'est que ma foi m'amène une espérance qu'il y a un Dieu qui n'est pas dépassé par la situation. Alors, ça ne doit pas nous rendre passifs, mais au contraire, ça doit nous pousser à l'action, mais on ne peut pas désespérer parce que quelque part, il a pas... Il peut faire quelque chose, en fait. On n'est pas perdu. Donc ça me pousse aussi énormément. Et voilà, je suis très enthousiaste, en tout cas, par ce qui se fait cette semaine à Berne.
Ouais, donc pour toi, c'était une évidence d'y être à Berne cette semaine.
Oui, alors oui, tout à fait. Je pense que rejoindre l'effort collectif, c'est une nécessité, oui.
Juste un petit... Elisa, encore juste une petite question par rapport... Tu as utilisé le terme « se battre ». Est-ce que lorsqu'on est de l'amour, c'est pas plutôt d'œuvrer que de se battre ?
Ah oui, c'est une bonne question.
On va sortir une aspirine, moi.
C'est important, c'est très important, je crois, parce que ça dénote aussi une posture, et c'est très important.
Tout à fait. Ben, alors, clairement, il n'y avait pas... moi, je suis pour un pacifisme et une non-violence absolue, mais je pense qu'il faut se... quelque part, je dirais plutôt surmonter ce qui est néfaste dans ce monde. Peut-être pas se battre, c'est peut-être pas long terme, mais en tout cas, refuser et résister... aux actions qu'on considère comme mauvaises. Donc il y a une forme de combat, mais un combat dans la douceur et dans la passivité. Mais c'est quand même combatif parce que il y a un stress, on ressent un certain stress, on se sent agressé parfois quand on est en manifestation, et on doit se mettre quand même dans une position de quelqu'un qui est prêt à y aller, mais dans cette attitude pacifiste. Donc voilà, c'est un peu cette ambivalence, mais je pense que c'est important de la garder.
Merci Elisa pour ce magnifique échange. On a appris plein de choses. On a appris plein de choses. Et je vous propose d'aller faire un petit tour du côté du lac de Julien Doré pour une autre respiration musicale avant de retrouver la troisième invitée de cette soirée, en l'occurrence Diana, tout de suite.
Courageux et fort, où rien ne respire. Corps contre corps, ciel contre cime. La forêt se tord, l'horizon soupire. T'aimer sur les bords du lac, ton cœur sur mon corps qui respire, pourvu que les hommes nous regardent, amoureux de l'ombre et du pire. T'aimer sur les bords du lac, ton cœur sur mon corps qui respire, pourvu que les hommes nous regardent. Sur les bords du lac, ton cœur sur mon corps qui respire, pourvu que les hommes nous regardent.
On se faisait cette réflexion tout à l'heure avec Lucien. C'est fou, lorsque nous avons des intervenants qui croient en ce qu'ils racontent et qu'on reste un petit peu suspendu comme ça à leur discours, c'est fou ce que le temps passe vite, puisqu'il est, on est déjà un quart d'heure de 9h. On arrive gentiment à la fin de cette rencontre, mais il nous reste tout de même une invitée avec qui nous allons partager un autre moment. Pauline, elle est à côté de toi, c'est Diana.
Exactement, c'est Diana, et Diana est une amie à moi depuis un moment déjà, et au fait avec elle on se retrouve souvent à parler spiritualité, sujet que j'adore partager avec elle parce que c'est juste hyper enrichissant. Elle connaît énormément de choses à ce sujet, et au fait elle est chrétienne depuis toujours.
Oui, on peut dire, j'ai grandi dans un milieu chrétien, ouais,
c'est juste, voilà. Et au fait, elle avait une église à laquelle tu étais très attachée. Et aujourd'hui, tu m'as annoncé que tu pensais prendre un peu du recul avec cette église. Est-ce que tu peux un peu m'en parler ?
Alors, oui, alors, enfin, moi, c'est même pas depuis aujourd'hui, ça fait même depuis un moment, en fait, que j'ai commencé à prendre pas mal de recul, en fait, avec mon milieu, on va dire comme ça, en guillemets, pour des raisons, en fait, que les deux autres intervenants ont déjà un peu mentionné, en fait, c'est que j'avais vraiment l'impression de vivre dans un discours qui, pour moi, était pas cohérent, en fait. C'était à la fois, oui, l'amour et tout ça, et en même temps, enfin, prendre soin des autres, de la vie. Et en même temps, il y avait un discours qui était très... Enfin, il faut dire qu'il n'y avait pas beaucoup de jeunes dans mon église du tout. J'étais même un peu une des seules, quoi. Et il y avait un discours très... Oh, mais de toute façon, c'est foutu, ça ira mieux après. De toute façon, Jésus, il va revenir et tout ira mieux après. Et quand on a 20 ans, enfin 23 en l'occurrence pour moi, c'est dur à entendre quand même. Enfin, moi, je me dis, OK, vous avez 70, 80 ans, 60, enfin, qu'importe. Pour vous, en guillemets, je peux comprendre que vous n'ayez pas des attentes incroyables vis-à-vis de l'avenir, sans être cynique. Mais moi, j'ai encore plein de rêves. J'ai beaucoup de choses que je n'ai pas encore envie de, que j'ai pas encore réalisées. Et j'ai envie de les réaliser. J'ai des rêves plein la tête et tout. Et j'aime pas m'entendre dire que tout ce que je fais, ça sert à rien parce que... Au final, ma vie est futile, elle est inutile, il y aura quelque chose après, ça, ça vaut mieux. Enfin, à ce moment-là, pourquoi être là, en fait ? Pourquoi avoir... pourquoi vous faites des enfants ? Pourquoi... Juste pourquoi on est là, en fait ? Et c'est aussi un message, je pense, où... Enfin, c'est quand même une question dans le christianisme qu'on se pose beaucoup. Enfin, de savoir pourquoi on est là, c'est quoi le but de l'existence ? Et de s'entendre dire que mon existence, elle n'a pas de but, ou que de toute façon, je suis impuissante. C'est dur et c'est un discours dont j'en avais marre. En fait, j'avais tout simplement marre de ce discours et j'ai décidé de prendre du recul et de vivre ma spiritualité de manière plus ouverte et peut-être un peu sortie du carcan en fait, d'une église. Un peu. Ce qui me gênait un peu, j'ai l'impression quand on est dans une église, on a l'impression que c'est comme si on est dans un parti politique. En fait. Quand on dit « je suis de telle ou telle église », les gens se disent « ok, c'est-à-dire que toi, tu crois ça, 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 ça ». En fait, non, en fait, une église, ce n'est pas ma carte d'identité spirituelle. Et j'ai pas envie que ce soit le cas non plus, en fait. Voilà, je sais pas si ça a répondu à ta question ou...
Magnifiquement bien. Super, comme d'habitude quand on aborde ce sujet, au fait. Mais du coup, toi, t'as l'impression d'avoir quand même trouvé un sens où tu te dis vraiment que le sens que t'as ici, enfin, ce que t'as à faire, c'est juste des expériences.
Ah ouais, ça, en fait, c'est... Ça fait il n'y a pas longtemps, en fait, c'était en lisant par hasard un livre sur la Kabbale, en fait, qui m'a beaucoup frappée, en fait, où l'intervenant dans le livre, j'ai plus le nom du livre en tête, c'était un vieux rabbin qui disait, mais en fait, vous êtes tout le temps focalisé sur les réponses, au final, les réponses, on s'en fout, c'est la question qui compte, en fait. Toute la question, c'est de se poser en fait les bonnes questions et de peut-être même des fois ne pas trouver de réponse, parce qu'en fait la réponse te fige. Et une fois que tu te figes, t'es plus dans le mouvement, t'évolues plus en fait, et tu te retrouves à défendre une réponse, à défendre une position, et plus à défendre un mode de vie et un état d'esprit par rapport à la vie. Et ça m'a beaucoup interpellée. C'est vrai que d'une certaine manière, j'ai arrêté de chercher un sens en soi, en fait. Parce que je trouve qu'une fois qu'on se trouve un sens, d'une certaine manière, on se bloque aussi. Si par exemple, je dis maintenant, OK, en fait, le but de ma vie, c'est de convertir un maximum de personnes, je vais devenir une fanatique de ça. Et puis, ça veut dire que dès que quelqu'un va chercher à me mettre en question par rapport à ça, je vais le prendre comme une attaque personnelle parce que je m'identifie à ça. Et je vais plus être à l'écoute de l'autre, je vais plus être dans une dynamique en fait. Et du coup non, je me dis, le but de ma vie c'est d'être heureuse et d'être cohérente en fait. Et pour moi aujourd'hui, être heureuse et cohérente, c'est aussi se lever face aux choses qui ne vont pas, c'est se lever pour le climat, parce que c'est quand même d'une incohérence monstrueuse en fait de se dire qu'on est en train de détruire notre biotope quand même. Je veux dire, on est le seul animal possible qui détruit sciemment son biotope, qui le sait et qui continue de le faire. Et pour moi aussi, c'était quelque chose dans le message chrétien qui doit être important. Je veux dire, il y a quand même, dans la Bible, c'est quand même écrit que ceux qui détruisent la terre seront détruits. Et pour moi, il n'y a pas là une idée de punition, il y a une idée de logique. Je veux dire, tu scies la branche sur laquelle tu es assise, et ben tu vas tomber. C'est aussi bête que ça. Il n'y a pas besoin d'être chrétien ou d'être quoi que ce soit pour comprendre quelque chose qui devrait être d'une logique juste imparable, en fait. Donc, mais c'est vrai que pour moi, quand même, le fait d'avoir grandi dans un milieu chrétien, je vais dire, enfin, d'avoir ces valeurs de prendre soin de la vie, de prendre soin des autres, ben, ça m'amène forcément, comme l'a dit Elisa avant, à prendre soin tout simplement de ma planète, parce que c'est là que je vois Dieu. Je ne peux pas voir Dieu en dehors de ça, en fait. Je le vois dans la nature qui est là, et son amour, je le vois là aussi. Je veux dire, on détruit la planète et elle continue de nous offrir à manger. On continue d'avoir de l'eau à boire, de l'air à respirer. Et rien que ça, c'est quand même incroyable quand on y pense. Et je pense qu'on a tendance à oublier ce privilège incroyable qu'on a, en fait, d'avoir une terre qui nous nourrit indépendamment du mal qu'on lui fait, quand même.
Moi, ce discours que tient là Diana m'inspire une réflexion toute simple, parce que l'image de « je suis assis sur la branche que je suis en train de scier », elle est tellement, finalement, elle colle tellement à la situation que l'on vit maintenant, ça paraît tellement logique. Comment ça se fait qu'il faut des manifestations comme celle à laquelle vous participez en ce moment pour que d'autres gens réalisent ça, ou finalement on les force à réaliser quelque chose qui semble a priori très logique?
Ben, je pense que c'est pas si évident. Autant je pense qu'il y a des personnes pour qui, comme on parlait avant, des conflits de génération, il y a des personnes, à mon avis, qui doivent se dire on en a déjà vu des autres, des crises, chaque génération a sa crise. Je veux dire, il y a des générations avant qui ont vu des guerres, quoi, des guerres mondiales et tout. Et peut-être qu'au final, ils en sont peut-être sortis avec cette idée que d'une manière ou d'une autre, on s'en sortira. Alors peut-être oui, mais là je pense quand même qu'on est face à une problématique qui est quand même inédite dans l'histoire de l'humanité, parce que là, il ne s'agit plus d'un conflit politique. Il s'agit de quelque chose qui est global et qui est biologique, en fait, je veux dire. Et en même temps, il y a des gens qui sont conscients et qui ont peur. Moi, je pense que la peur aujourd'hui, elle bloque énormément de choses. C'est les gens se disent oui, mais qu'est-ce que je vais perdre, en fait, dans cette lutte? Autant il y a un espèce d'espoir un peu bizarre où on se dit, mais bon, si ça se trouve, on va s'en sortir quand même. Est-ce que ça vaut la peine que je perde mon job? Est-ce que ça vaut la peine que je perde des amis, que je perde mon confort, etc., etc.? Et une réflexion qui, pour moi, n'a pas vraiment lieu d'être. Mais je peux quand même comprendre que les gens se posent cette question, mais je pense qu'ils doivent aller au-delà de ça. Moi, j'en discutais avec ma classe. Par exemple, aujourd'hui, je suis la plus âgée de ma classe. Dans ma classe, il y en a, ils ont 16, 17 ans. Je discutais avec eux, j'essayais de les motiver, de leur dire « voilà, il y a une manifestation, vous voulez venir avec moi ?» Enfin, il y a une bonne ambiance et tout, il n'y a pas de danger en soi. Et ce que j'entendais beaucoup, c'est « manifester, ça ne sert à rien. Je ne suis pas légitime, donc je ne suis pas assez parfaite. Je pourrais faire ci, je pourrais moins faire ça, etc. etc. » Donc, j'en fais pas assez, je ne suis pas légitime. Ou c'est foutu, en fait. Ouais. Et moi, je trouve ça dramatique, en fait, qu'à 16, 17 ans, on se dise « mais de toute façon, c'est foutu. »
Et ça, c'est quelque chose qu'on entend quand même assez souvent. J'imagine que toi, Lucien, dans les différents peut-être conférences que tu tiens ou les gens que tu rencontres, on a quand même une bonne partie de gens qui tiennent ce discours-là. De toute façon, c'est cuit, autant continuer comme ça. Enfin, c'est le cas de le dire, c'est cuit, vu que la température monte.
Ben, disons que les personnes que je rencontre à travers les conférences, souvent, sont des personnes intéressées. Quelqu'un qui n'a pas d'intérêt ne vient pas à ces conférences. À travers la chaussure rouge aussi, beaucoup de rencontres, beaucoup de jeunesse, beaucoup de personnes. Ça m'est très familier, ce qui est dit ce soir, et ça me fait toujours beaucoup de bien, parce que ça m'inspire aussi beaucoup. Je suis plus âgé que vous, mais vous m'inspirez beaucoup, et c'est ça qui est beau dans ce genre d'émission et ce genre de contact. Et je dirais que là, disons qu'habituellement, c'est des personnes qui sont plutôt très enclines à s'engager pour faire quelque chose de mieux. Et c'est pas qu'une question d'espoir, c'est aussi une question de faire pour faire. Tu disais tout à l'heure, Diana, que des fois on était peut-être un peu découragé, que c'est trop tard, c'est foutu, et puis ou plutôt tu disais, on dit, mais je suis pas assez parfait pour venir manifester, parce que moi-même j'ai des défauts. Et c'est justement ce qui est proposé dans le cas de la chaussure rouge, par exemple, qui est le symbole du prendre soin de la vie, où on dit justement que il n'y a pas de niveau. En fait, c'est juste se mettre en chemin. Et la chaussure rouge, c'est juste un élément qui nous rappelle qu'on est en chemin. Et la chaussure rouge, elle est là juste pour dire, OK, j'affirme ma volonté de prendre soin de la vie, d'améliorer la situation du vent, tout en acceptant que finalement, je ne suis pas parfait. Mais ce qui est important, c'est de se mettre en chemin. Et ce qui est sympa, c'est que lorsqu'on se met en chemin, sur ce chemin, on rencontre des personnes qui ont déjà fait plus de chemin ou moins de chemin que soi-même. Et là, ce qui est intéressant, c'est que les échanges se créent. Si ça m'arrive moi-même de rencontrer des gens qui ont fait beaucoup plus de chemin que moi, et alors à ce moment-là, c'est eux qui m'inspirent. m'inspire, qui me permette d'avancer et de continuer, avoir la curiosité de continuer sur ce chemin, ou me donner l'envie de continuer. C'est l'aspiration, en fait, qui fait envie d'avancer, qui ouvre encore ma conscience encore plus grande que ce qu'elle est aujourd'hui. Et parfois, je me rends compte que je rencontre des gens qui sont en chemin, mais qui ont fait peut-être un peu moins de kilomètres que moi. Et là, à ce moment-là, c'est moi qui suis à même de leur ramener un petit quelque chose pour les inspirer et tenter de faire qu'ils restent motivés à rester en chemin. Je pense que c'est comme
mais
ça que je vois les choses.
Ce qui est aussi pas évident, je sais pas, j'imagine que toi, tu dois voir ça souvent, c'est que moi, justement, un peu, mes camarades me voient un peu comme l'écologiste. Du coup, souvent, je les entends dire « Ah, tu sais, j'ai pensé à toi aujourd'hui, je n'ai pas pris un gobelet en carton à la cafette et tout ça. » Et puis, moi, des fois, il y a le côté un peu gênant où je n'ai pas envie qu'ils me voient comme, en guillemets, une espèce de gourou ou une personne qui les juge et qui est tout le temps en train de les regarder et de leur dire « Ah, ça, tu aurais pu faire différemment » ou « Ça, tu aurais pu faire différemment. » Mais plutôt d'avoir cet esprit de bienveillance, de dire « Ça, tu… » Regarde, ça, par exemple, c'est un petit truc que tu fais, tu pourrais le changer. Après, ça n'engage que toi, parce qu'au final, c'est entre c'est ta conscience, en fait. Et c'est pas d'être dans une espèce d'esprit de dictature ou de fascisme inversé où on va commencer à se vérifier les uns les autres et tout. Enfin, c'est pas l'esprit qu'on cherche, en fait. On cherche plutôt un esprit, justement, de bienveillance et d'amour, en fait. C'est un mot qui paraît presque un peu… un peu surusé aujourd'hui, mais je pense dans ce que ça a de pur et de bienveillant, quoi.
Mais il est fondamental au jour d'aujourd'hui, je crois que c'est ce qui va nous sauver. Et alors, lorsque une personne me dit « j'ai pensé à toi pour ci, pour ça », je lui dis « mais pense pas à moi, pense à toi. Pense
ouais,
à
exactement.
Toi, c'est pour ta propre vie, c'est pas de moi qu'il s'agit, c'est de toi également ». C'est ça que je crois que c'est important. Aussi, peut-être que ce que j'explique régulièrement, c'est… des petits tuyaux qu'on donne comme si parmi à travers cette émission, quand même. Ce qui est aussi intéressant, c'est… Ce que j'explique, c'est que finalement, l'écologie, c'est prendre soin de la vie. Et c'est la vie, votre vie à vous, ma vie à moi, notre vie à toutes et à tous. C'est ça, l'écologie. Et une personne qui montre un écolo avec un petit air sarcastique, qui montre un écolo du doigt, c'est juste comprendre que cette personne-là est en train on montre du doigt quelqu'un qui tente de prendre soin de la vie, y compris la vie de celui qui le montre du doigt. Donc on est tous
concernés.
Je pense
que là, il y a quelque chose d'assez égotique, tu vois, où finalement, on a tendance toujours à montrer du doigt chez les autres ce qui nous interpelle en nous-mêmes, en fait. Je veux dire, si vraiment on n'en avait rien à faire, on ne se sentirait pas interpellé par quelqu'un qui fait tel ou tel choix de vie. Moi, quand j'ai décidé de devenir végétarienne il y a 8 ans, parce qu'on avait vu un reportage en fait à l'école, donc un documentaire, et qui moi m'avait scotché, m'avait profondément choqué, et devenir végétarienne m'a paru à ce moment-là d'une évidence implacable, quoi. Je me souviens encore de la réaction que j'ai eue, même des profs qui m'ont dit « Oh, mais je suis désolée que ça t'ait autant choqué, il fallait pas le prendre, qui étaient presque désolés que j'ai fait ça, alors que j'avais envie de leur dire « Mais merci, vous m'avez ouvert les yeux, pourquoi vous vous sentez mal parce que je fais ça ?» Et je trouve ça triste qu'on ait l'habitude de pointer du doigt les problèmes et de pas bouger, de se sentir mal de le faire.
Ben parce qu'on me le disait Elisa tout à l'heure, je pense, hein, c'est mon analyse, c'est que finalement, on devient un peu des miroirs pour les autres. Et exactement. Plutôt que de se regarder dans le miroir, on préfère briser le miroir. Et à partir de là, on préfère cataloguer. Briser le miroir, c'est cataloguer, ça permet de briser le miroir. C'est-à-dire qu'on catalogue la personne, on la met dans un petit tiroir, on la classifie, et de toute façon, dès le moment où elle ouvre la bouche, on sait que ça va être dans ce sens-là. Et puis de toute façon, en cataloguant, ça permet de stigmatiser aussi. Donc… C'est peut-être ça. C'est clair que l'ego est bien entendu très affûté dans ces moments-là. Mais disons que c'est le travail, tout le travail est de pouvoir lisser nos égos et puis de travailler à ça, effectivement.
Exactement.
Merci Diana. Je pense qu'on pourrait, Pauline, je ne sais pas ce que tu en penses, mais organiser une soirée complète entre Diana et Lucien, ça pourrait être assez intéressant.
Alors, certainement, ça serait magnifique d'ailleurs.
Pauline, tu viens avec, puis on prend Patrick avec parce qu'il faut qu'on le…
il faut que Patrick… Mais à mon avis,
moi, je vous assure la liaison.
Ici, il y aurait de quoi discuter avec beaucoup de monde. Vous savez, messieurs, vous pourriez venir.
Ah oui, oui. Ben, on sait, mais dis, Pauline, on ne peut pas être au moulin, là. T'as vu où on est, là ou bien, oh. Si on n'était pas là, on ne pourrait pas s'entendre comme on s'entend maintenant, quand même.
Ah,
tu vois.
Je suis tout à fait d'accord. Oui, vous faites très bien votre job et merci beaucoup parce que, franchement, c'est hyper qualitatif.
Je suis tout à fait d'accord. Et puis, si jamais, Lucien, tu es partant pour venir, moi, je suis de toute façon à l'école à Berne. Donc, après les cours, moi, je vais manifester tranquille, tu vois.
Ah, cool.
siècle.
Ça roule. Bah écoute,
merci
Pauline,
Diana.
J'ai déjà regardé avec toi pour le numéro de téléphone de Gilles. Bah regarde aussi pour le numéro de Diana, quoi.
Voilà.
Ouais.
Merci Diana, merci à Elisa, merci à Gilles d'avoir partagé ce moment avec nous.
Merci. Merci, super.
Et puis, bonne suite sur cette place fédérale en espérant que vous y resterez jusqu'à vendredi. Ça, on suivra les aventures de ce Rise Up for Change par l'intermédiaire de Pauline qui reste sur place, évidemment. On va se retrouver demain, Pauline.
Magnifique. Bah oui, je me réjouis.
Alors, on découvrira le sujet un peu au fur et à mesure. Là, je dois vous dire qu'on est dans une improvisation totale. On se brief quelques instants avant l'émission et puis on y va. Et finalement, c'est pas plus mal. D'ailleurs, on évoquait cette coïncidence tout à l'heure avec Lucien. Lorsque j'ai compilé les sons que tu nous as envoyés tout à l'heure, j'ai décidé de terminer avec une chanson que j'ai trouvée sur un des sons que tu m'as envoyé. Et il se trouve bêtement que cette chanson était interprétée, et tu l'as dit, par les trois invités de ce soir.
Mais non.
Et je peux vous dire qu'entre Pauline et moi, on s'est pas du tout concerté pour arriver à ça. C'est une monstrueuse coïncidence. Alors d'autres l'interpréteront certainement autrement. Moi, je m'arrêterai à coïncidence.
Ouais, c'est ce que disait tout à l'heure Patrick. Mais ça, c'est la vie qui s'organise. C'est ça, la vie. C'est comme ça que ça fonctionne. C'est de la physique quantique.
Parfait. Pauline, merci. À demain. Excellente soirée. Très belle nuit sur la place fédérale.
Merci beaucoup. Au revoir.
Merci. Bye bye. Bonne soirée.
Et puis, on se retrouve demain également, Lucien, pour d'autres aventures de la Chaussure Rouge en radio. Très belle nuit à vous tous.
Au revoir tout le monde. Bye bye.
Et on vous laisse avec une heure de musique. Ce sont les heures de l'air. Bonne nuit.